Radio Palindrome, après Bordeaux, voici la chronique suisse. Ève, négative, évita Genève. Ève, négative, évita Genève. Mais ce n'est pas tout. Sion a déçu ce Danois. Sion a déçu ce Danois. Et plus encore, à Locarno, on racola. À Locarno, on racola. Radio Palindrome, c'était la chronique suisse.
Et voilà, c'était trois palindromes de Gérard Durand, le gérant du rare. Et je vous rappelle que si c'est pas trois fois le même, trois palindromes mis bout à bout, ça ne fait pas un palindrome. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Je me souviens que quand j'ai commencé à vous faire des « Je me souviens » sur cette antenne, je me présentais comme un quinca, même pas particulier. Me voilà maintenant devenu sexa. Allez, je me souviens d'une copie que j'avais laissée sur le canapé après l'avoir presque entièrement corrigée. Le chat a vomi dessus, l'élève a dû me faire confiance pour sa note. Je me souviens d'un paquet de copies de partiels de géométrie algébrique que Dominique avait posé sur le toit de sa voiture le temps d'ouvrir sa portière, puis d'ailleurs le temps de la fermer, et même le temps de démarrer. Bref, une semaine plus tard, Dominique déclara aux étudiants qu'il leur ferait passer un autre partiel avant la fin du semestre, soi-disant pour affiner l'évaluation. Je ne me souviens plus quand j'ai vu la dernière motocrotte dans Paris avec son conducteur s'acharnant avec l'aspirateur intégré à aspirer une déjection canine. Je me souviens de « Devant l'indifférence générale, demain est annulé », graffiti sur un mur de Belleville. Je me souviens des mentions « Où est Steve ?» sur les murs du métro et de Belleville avant qu'on ne retrouve son cadavre noyé dans la Loire. Je me souviens que les escargots meurent debout et que les kangourous n'ont pas d'arête. Je me souviens d'une bière vendue dans les biocopes. Son nom était simplement « Nom à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ». Je me souviens de Farfisa, un orchestre au bout de vos doigts. Et c'est vrai que si on avait basculé quelques boutons ou tirettes, il suffisait d'appuyer sur une touche du clavier de l'orgue pour déclencher le déferlement de 12 sons de violon, c'est du moins ce que disait la touche qu'on avait sélectionnée, sur un rythme de cha-cha-cha, de valse ou de rumba, difficile de les distinguer. Je me souviens qu'après avoir rappelé leurs premiers enfants Rodrigo, Antonio, Amalia et Armando, Lucilia et Georges ont décidé d'appeler leur petit dernier Jean-Pierre. C'est là que j'ai compris que finalement, même après leur retraite, ils allaient rester en France. Je me souviens que le Palais Royal est un beau quartier, toutes les jeunes filles sont à marier. Et à deux pas aussi, dans le Marais, toutes les jeunes filles sont à marier, mais je ne suis pas concerné. Je me souviens que le père de Florent avait dit à ses fils, « D'accord, vous en avez assez de Dana Mouskouri et Hugo Frey sur le radiocassette sur la route des vacances, alors donnez-moi une cassette chacun pour demain. » Florent avait choisi Antisocial de Trust, son père avait mis la cassette dans l'autoradio, n'avait pas commencé bosser 8 heures. Puis il s'était arrêté pour faire le plein, les avait envoyés acheter une bouteille de Fanta quand ils étaient revenus. L'enfant au tambour, quand tu chantes, et Céline avait repris possession des haut-parleurs, et ce, jusqu'au camping de Miramas. Je me souviens que Fernand avait fait peur à son fils Philippe en lui montrant une vitrine rue de Montorgueil alors qu'il lui faisait visiter le quartier des Halles, époque des pavillons Baltard et demi-carcasses de bœufs transitant à dos d'homme entre les voitures. « Regarde, lui avait-il dit, tu lis quoi là ? Diables à louer !» Philippe n'en avait pas dormi pendant 3 nuits de suite. Je me souviens d'être passé à côté d'une séance de prise de vue pour un catalogue de mode près de chez moi, dans les buts de Chaumont. Un photographe, 2 assistants, 3 machinistes, 2 costumières, 2 modèles, 1 directrice de production, un type avec un carnet qui courait partout, un assistant, avait fait observer qu'on voyait une tente de survie avec un SDF dans le champ. La directrice de production avait dit alors, « Pas grave, on utilisera Photoshop ».
Elle avait les lèvres pincées, un anus de gallinacé. Moi, je rangeais ma gratte, mes affaires, à la fin d'un concert. Elle est venue me parler d'une de mes chansons où j'avais dû dire bite et con, peut-être même couille, enfin des mots qu'on trouve dans des dicots. Je pense qu'elle s'était d'ailleurs trompée d'endroit et de soir. Les gonzesses sont ailleurs, ça vient rarement me voir. Bref, elle m'a dit ceci, comme si j'avais été une crotte sur son tapis, un cheveu gras dans son thé. Dans vos couplets sommaires, vous visez au plus bas. Monsieur, vous êtes vulgaire, je ne vous salue pas. La tournée des talons, toute fière et toute seule. Moi je lui ai dit, ah non, hé, hey, tu te fous de ma gueule. Dire foutre et cul, c'est peut-être oser, tout ce que tu veux, laisse te saler. Mais la vulgarité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est par exemple médecin bronché, 1000 ouvriers sur le pavé. Tandis qu'en bourse, tes actions montent et ne pas en avoir honte. C'est comme à Managua d'offrir aux filles hâves. En zone franche là-bas qu'un salaire d'esclave. C'est réduire à plus rien l'aide minable déjà. Que la vieille qui tend la main espère chaque mois. C'est limer les crédits de l'école publique. Et tant pis pour qui vit dans des quartiers merdiques. C'est dire comme certains, celui qui est dans la misère, c'est au fond qu'il le veut bien. Ça c'est vulgaire. Vulgaire, tu vois, pour moi c'est pas bouffer ses nouilles avec ses doigts, péter au bal de la duchesse ou te foutre la main aux fesses. Mais c'est répandre l'idée abjecte que la médecine ça s'achète, qu'elle a donc une pour les rupins. Une autre pour les chiens, c'est polluer les têtes, nos rejetons mignons, avec une culture faite pour piquer leur pognon. C'est leur faire croire aux petits, sans défense et tout beau, que le bonheur c'est Barbie, Coca, Mickey, McDo. Vulgaire c'est m'imposer sous couvert de commerce, de la barbaque bourrée d'hormones les plus diverses. C'est breveter la vie, prendre l'eau bientôt, l'air, pour en tirer profit, ça c'est vulgaire. Vulgaire c'est titrer à la une sur le mariage ou la fortune, des stars dents blanches et peaux bronzées dans leur ghetto doré. C'est affirmer haut et dur que ce monde conduit par des ordures est le seul possible désormais, et que j'ai qu'à m'écraser. C'est la raison d'état, Thatcher et Pinochet. L'Afrique qui se noie, le Tibet sacrifié, sont les mafias qui rient de toutes leurs dents en or. Et c'est la barbarie de la peine de mort. Sont les enfants d'Irak, de Gaza, de Timor, qu'on étouffe et qu'on traque depuis 10 000 aurores. C'est enfin commencé ce joyeux millénaire, avec nos mains tachées, en acceptant la guerre. Et l'homme tel qu'il est, sans refus, sans colère, sans envie de gerber, ça c'est vulgaire.
Radio Libertaire 89,4 MHz, une chanson de Michel Buller qui nous a quittés ces derniers jours, mais ben, on lui rendra un petit hommage dans cette émission comme dans quelques autres émissions de Radio Libertaire. Mais pour l'instant, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, en face de moi, je reconnais une casquette. Pour ma part, je ne porte plus de casquette sur la tête depuis que j'ai cru que c'était ça qui m'avait fait perdre mes cheveux. Mais Moa a pris de l'avance, il a déjà perdu ses cheveux avant de mettre sa casquette. Salut à toi, Moa.
Salut, Nicolas. Bon, eh ben, écoutez, je vous présente Élie, qui est là, et Ferid Zerzour, qui est là aussi, et donc qui représente tous les deux des petites institutions théâtrales dont ils vont en parler de vive voix. Et donc, tradition oblige, coup de guimbarde pour annoncer. Et voilà, 89.4 Radio Libertaire. Donc, on va commencer par le plus ancien, peut-être le plus... l'aîné. Voilà, noblesse oblige. Donc, Ferid Zerzour, qui dirige un théâtre qui s'appelle Calam, à Saint-Denis, en banlieue, donc parisienne. Alors, la première question, c'est pourquoi Calam ?
Bonjour. Pourquoi Calam ? Oh là là, c'est un peu long à expliquer, mais pour tout vous dire, j'avais une compagnie. Alors, ça, comment ça remonte, hein, parce que c'était quasiment au millénaire dernier. J'avais une compagnie qui s'appelait Les Ânes en Peine.
Wow.
Les Ânes en Peine. C'est drôle, voilà.
Ah ouais, c'est pas mal.
Mais ça, ça fait cet effet-là chez les gens intelligents. Ah. Et on a eu beaucoup de c'était très mitigé. Hein, voilà. Et donc voilà, donc on s'est dit à un moment qu'il fallait qu'on change ce nom. En plus, comme il y a eu une scission un peu au sein de cette compagnie, eh ben, on a décidé de changer de nom, de s'appeler Théâtre du Calame. Ah. Ce qui faisait un peu, comment dirais-je, à céder un peu aux volontés de l'institutionnel, je dirais.
D'accord.
On était jeunes à l'époque. Et voilà, donc c'est vrai que les Ânes en Peine, c'était qui tout double, quoi. Soit les gens, ils adoraient, mais souvent c'était les spectateurs, le public, les artistes, etc. Mais voilà, donc c'était compliqué d'avoir un modèle économique viable avec une compagnie qui s'appelle comme ça.
Mais Calam, ça veut dire aussi...
El Kelem. En fait, voilà. Et donc, on a décidé de s'appeler... Enfin, on a réfléchi un peu à ce nom-là. Et Théâtre du Calam. Le Calam, c'est le roseau taillé en biseau et qui sert à faire de la calligraphie. Hein, arabe, hébraïque, chinoise, gothique, etc. Et Calam, on s'est dit, voilà, c'est un truc avec l'écriture, avec le théâtre. Ça, c'est bateau, mais ça nous plaisait bien. Et il s'avère que, on dit, en arabe, évidemment, on dit Calam.
Voilà,
pour
le K. Difficilement prenant ça pour un Français.
Pas toujours facile.
Tu es Français.
Voilà, c'est ça.
Nicolas.
Calam. Et donc, donc c'était Calam. Et en fait, en discutant, moi je suis pas arabophone, je suis berbérophone, on en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai rencontré des amis à moi syriens qui me disaient, Farid, c'est une très bonne idée d'avoir appelé ta compagnie le théâtre du Calam. Je dis non, c'est théâtre du Calam. Il me dit, ah non, mais nous, on lit Kalam, parce que c'est avec un K. Et en fait, il faut savoir qu'en arabe, le Kalam, c'est aussi la voix. Et donc, ce hasard faisant tout mon bonheur, donc j'ai cette dualité à mon corps défendant entre l'écriture et la parole, ce qui, je trouve, est pas mal pour une compagnie de théâtre, je crois.
Mmh, très bien.
Et voilà un peu l'histoire de ce nom qui s'appelle Théâtre du Kalam. Et nous sommes plus précisément à Colombes, dans les Hauts-de-Seine.
D'accord. Et donc, ce Calam, il est né quand, exactement?
Oh là là, je vous disais, il est né tout au début, en 1999.
Ah.
C'était les Ânes en Peine, donc, à l'époque, au début des années 2000.
C'est pas les Ânes en Peine.
Les Ânes, c'était les Ânes.
Ah, c'est les Ânes en Peine.
Les Ânes, ah oui, bah, c'est ça qui est rigolo. Quel intérêt d'appeler une compagnie les Ânes en Peine. Donc, c'était les Ânes en Peine, voilà, avec mon ami Joe, que je salue, qui était mon copain des bancs de l'école de théâtre. Et voilà, donc c'est devenu le Théâtre du Cala, mais ça s'est un tout petit peu plus institutionnalisé, même si on reste un peu des artisans, je dirais, et un peu...
Et donc, c'est dans le cadre de la francophonie, dans les langues... maternelle dans...
Bah, en fait, moi, je voulais quelque chose qui nous ressemble un petit peu, quoi. Tu vois, non, c'était pas du tout attaché à la francophonie. Voilà, on voulait quelque chose qui nous ressemble, quelque chose, ça me ressemblait bien, je trouve, les Ânes en Peine.
Mm-hmm.
Mais Théâtre du Calam, on voulait quelque chose de plus... je sais pas comment dire, plus acceptable, plus passable. Et donc, Calam, moi, je suis très content de ce nom. Parce que je trouve qu'il nous définit bien. Parce que je suis pas tout seul, évidemment. Hein. Il y a des régisseurs, des décorateurs au Théâtre du Calam, d'autres comédiens, d'autres metteurs en scène, une administration, etc. Donc, ça nous correspondait bien à tous. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est né le Théâtre du Calam.
Et donc, le Calam, ça parle beaucoup plus quand même à une minorité qui parle cette langue et qui comprend ce que c'est que Calam.
Bah, le Théâtre du Calam, ce n'est qu'un nom. Hein. Nous, on fait des spectacles de théâtre. Donc, ce qui est, à mon sens, le plus, comment dirais-je, important, c'est les spectacles ou les actions qu'on mène.
Mm-hmm.
Ça dépend. Il y a des gens qui s'intéressent au nom, d'autres pas du tout.
Moi, j'aurais écrit C-A-L-A-M-E parce que je suis latiniste et le lapsus calami, c'est l'erreur quand on écrit. Il y a le lapsus lingué, le lapsus à l'oreille et le lapsus calami quand on se plante en écrivant. Donc, Calam, C-A-L-A-M-E, c'est du latin aussi.
Ah,
ouais. Ah bah tu vois, c'est quelque chose que j'ignorais. C'est avec un C.
Là, c'est un K.
Alors, il faut savoir aussi, alors, pourquoi pas, mais ça ne vient qu'ajouter de l'eau à mon moulin, parce que je trouve cette subtilité, en tous les cas, très intéressante, et elle est un peu complémentaire de ce que je voulais. Mais en tous les cas, après, il y a quelque chose qu'on a choisi de manière purement esthétique, je dirais, c'est la noblesse du K. On avait trouvé que c'était une belle lettre, le K. Et d'ailleurs, on avait à un moment cherché dans notre logo, parce qu'il faut un peu avoir des logos, quelque chose avec le K, le cheval de Don Quichotte, sa lance et tout. Donc, on avait trouvé quelque chose comme ça.
Au cas où.
Voilà, ça ne vous avait plu. Et donc, le K, cette noblesse qu'inspire le K. Moi, je m'appelle Farid Zerzour et j'ai deux Z dans mon nom. On n'est pas beaucoup à pouvoir se vanter d'avoir deux Z dans leur nom. Donc voilà, j'étais sensible aussi.
Et alors, Zerzour, alors, ça veut dire
Zerzour. Alors, on dit Zerzour, c'est... je vous disais tout à l'heure, moi, je suis berbère, enfin, kabyle, plus précisément. Amazir. C'est le nom d'un petit oiseau.
C'est ça, voilà, Zerzour.
Absolument. Mmh. C'est le nom d'un petit oiseau. Et voilà.
Très bien. Et alors, donc, actuellement, le projet, l'activité de Calame.
Ah, on fait... On vient de finir un festival de théâtre. Mmh. On vient de finir un festival de théâtre qui nous tient beaucoup à cœur. Nous, on a beaucoup des actions de territoire, donc à Colombes, sa périphérie, et en Île-de-France de manière assez générale, donc des villes de Seine-Saint-Denis, évidemment, des Selles, dans le Val-d'Oise. Et on a un festival qui est localisé sur notre territoire, dans ce qu'on appelle, de manière un peu barbaresque, un QPV, un quartier... un QPV, quartier politique de la ville, qui s'appelle les Fossés-Jean, et on mène un festival qui s'appelle la Banlieue Heureuse.
D'accord.
Ces déclinaisons-là, elles font partie un peu de notre ligne artistique, en disant que le théâtre, c'est pas très original, mais en tous les cas, on y tient, il est partout, et particulièrement là où il a le moins, où il a le plus sa place, mais où il est moins représenté. D'ailleurs, c'est pas anodin s'il y a des dispositifs particuliers sur certains des territoires. Et donc, on a développé ce festival qui s'appelle La Banlieue Heureuse, qui est fait avec des habitants. Donc, c'est un mélange entre la pratique professionnelle et des pratiques amateurs, avec des habitants qui vont créer des spectacles. Et ça a lieu à la nuit tombée, éclairé avec des lampions, des guirlandes lumineuses, des flambeaux, tout un tas de choses. Et dans la nuit d'un parc, on part à la découverte, on est 1500, on part à la découverte de spectacles qui sont comme ça, placés, éparpillés dans tout le parc. Et voilà, ça laisse des moments des très beaux souvenirs. Et on a eu un thème cette année. Le thème, c'était la cité des rêves.
La cité des rêves.
Donc voilà, il y a des metteurs en scène qui vont travailler avec nous. Il y en a 12. Et qui vont monter des scénettes. Donc voilà, sur ce thème-là, des scénettes qui vont durer 5, 6, 7, 8 minutes.
D'accord.
Autour de ce que leur inspire la cité des rêves. Et voilà, donc il y a plein de choses très différentes. Ce festival, il vient de se terminer. C'est un gros travail pour nous, très... voilà, d'organisation, et puis évidemment, comme on fait la nuit, il faut éclairer un petit peu, donc on ne se facilite pas les choses, mais le soir nous donne une scénographie naturelle extrêmement belle, quoi. Je crois que c'est très joli. C'est très évocateur, en tous les cas. Hein. Voilà, et après, on va repartir sur des spectacles un peu plus, un peu plus commerciaux, avec des spectacles de fin d'année. Parce qu'il faut bien quand même un peu manger.
Bien sûr.
Et qui vient
le contact avec...
Pardon
Non, rien.
Ah.
Le contact avec Saint-Denis à propos du 17 octobre 61.
Absolument, il s'avère qu'aussi
on mène des,
voilà, il s'avère aussi qu'on va travailler sur la question de la mémoire, de la lutte anticoloniale, évidemment, ça c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Donc avec d'autres partenaires aussi, parce que le Théâtre du Calame n'est pas tout seul, on va travailler sur l'histoire du 17 octobre, et particulièrement, alors il s'avère que dans notre conseil d'administration, on a des membres, notamment le coordinateur du collectif 17 octobre 1961, banlieue nord-ouest. Et donc voilà, ces sujets-là nous intéressent aussi.
Et d'ailleurs, à ce propos, mon intervention à l'Assemblée nationale avec Kate Biassine était très très bien reçue sur le 17 octobre 1961.
Ça évolue un petit peu, effectivement, c'est très très lent. Mais ça évolue, donc voilà, il commence à y avoir des interventions à l'Assemblée nationale, il commence à y avoir des choses qui sont...
Organisées par Radio Beurre.
Voilà, et ben, il faut les féliciter pour
Absolument.
Ça. Mais voilà, cette lutte, en tous les cas, sur la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961, elle est beaucoup trop lente. Nous, on a eu beaucoup de déceptions de lors de la venue du président sur les lieux, sur le pont de Beson.
D'accord.
Alors que nous, évidemment, on commémore principalement au Pont de Beslan. Alors, plein d'autres villes. Hein.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que nous, à Colombes, on est très attachés à la commémoration au Pont de Beslan. Et donc là, il est venu. Mais il manquait un bout de sa déclaration. Quoi.
Tu veux dire Macron ?
Ah oui, oui. Il manquait une reconnaissance du crime d'État, des violences policières reconnues au plus haut sommet de l'État. Donc, ce n'est pas essentiellement Maurice Papon qu'on va charger, qui est mort, enterré, qui était un sombre salaud, mais depuis longtemps, ça, on le savait. Donc, il est temps d'assumer ses responsabilités.
On va faire une petite pause, Nicolas ? Allez, on change de ton.
La virgule était courte, mais il va falloir que tu nous expliques, Farid le Tamatirt.
Alors, je dois le dire, pas vraiment préparé cette émission, mais je savais que j'avais pour obligation de vous proposer une petite pastille musicale. Et donc c'était ce matin, évidemment, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais proposer ? Et j'avais envie de... Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de présenter Idir, puisque c'était Idir en duo avec Matou Blounès, et qui, en apparence... donc sont deux légendes de la musique kabyle et qui en apparence tout oppose dans le style avec Idir qui avait un style un peu pastoral et Matou Blounès qui lui était vraiment le bagarreur de la chanson, celui qui portait très haut les valeurs de cette identité kabyle et en réalité ces deux gars-là étaient extrêmement complémentaires. Très copains dans l'intimité, dans la vie normale, etc. Et là, ils se sont retrouvés sur la scène ensemble à chanter ce titre, Tizi Oui. Et je ne l'ai pas choisi non plus pour rien, parce que Tizi Oui, ça veut dire solidarité. Et c'est la seule solidarité qui se met en place lorsqu'un travail est trop lourd dans le monde rural en Kabylie. Et donc, on va pratiquer ce qu'on appelle Thiwizir. Donc, ça veut dire que tout le village va venir. Pour s'y mettre, c'était principalement la fauche du blé, c'était c'était le fait aussi de ramasser les olives collectivement, et le propriétaire du terrain avait obligation de nourrir tout le monde, et c'est ce que raconte un peu cette chanson.
D'accord.
Et pour moi, en tous les cas, elle me ramène vers des chansons de l'enfance, etc. Mais voilà, je l'aime bien, et puis elle est très rythmée, donc voilà, je l'aime beaucoup cette chanson.
Et alors, donc, revenons à nos moutons, pratiquement, est-ce que vous êtes sponsorisé, vous êtes aidé, vous êtes béni?
Béni, je crois pas, non. Après, c'est un autre sujet, c'est un sujet qui est large, hein, la pratique du théâtre, l'institutionnel. Faut pas être naïf dans la demande de subvention, dans les demandes de fonctionnement. Voilà, il faut... On sait qu'en lançant une compagnie de théâtre que je gagnerais pas beaucoup d'argent, mais je ne pas particulièrement. Mais en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est de mener des projets et de pouvoir les mener, d'avoir la possibilité de se faire. Moi, j'ai la chance d'avoir un collectif d'artistes autour de moi ou qui forment, que je forme avec eux. Je forme ce collectif avec eux. Et ils sont fantastiques parce qu'on a une forme. Alors évidemment, on est intermittent du spectacle hein, depuis près de 20 ans, mais on développe aussi une pratique un peu particulière, c'est qu'on développe une forme de bénévolat indemnisé. Donc voilà, on va travailler, sans rentrer dans les détails, on va travailler pour un cachet de 12 heures, mais en réalité, on va travailler 50 heures sur ce cachet. Wow. Donc on va toucher un peu comme ça de trucs.
Donc il y a un côté militant quand même.
Ah, totalement, totalement. On le revendique aussi. Mais des fois, c'est un peu difficile parce que voilà, il y a des vies de famille, il y a des choses qui se passent, il y a des factures, il y a aussi d'autres appels un peu plus commerciaux. Quand il faut aller faire une régie quelque part ou il faut aller faire une voix off pour telle ou telle marque, bah, on va la faire. On n'est pas naïf. Hein. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. C'est aussi pour mener nos projets personnels. Donc, ça, c'est une chose. Et il faut aller toujours, comme je dis toujours, il faut être sexy auprès des partenaires institutionnels pour vendre le projet. Il faut être persuasif. Voilà, donc on arrive un peu à avoir des financements qui sont jamais assez parce que...
Et de qui de...
C'est assez large, ça peut être la ville, le département des Hauts-de-Seine, ça va être la région, l'État par le biais de certains dispositifs. Mais c'est vrai que, et ça il faut le préciser, nous on est des acteurs, on fait des spectacles de théâtre, ou un travail de pédagogie qui pour nous est intéressant et qui prend tout son sens, notamment dans notre festival de théâtre La Banlieue Heureuse, puisqu'il va y avoir des metteurs en scène qui vont travailler avec des jeunes. Ça va être très difficile d'obtenir des financements liés à la pratique culturelle ou à la création. D'accord. On va souvent être identifié, je pense que c'est le cas aussi pour d'autres structures. Je sais que j'avais lu un article là, d'une compagnie de Stein qui parlait de ça aussi, qui disait que souvent, quand tu demandes un financement, et ben tu vas plus avoir de chances d'être financé dans le cadre de l'action sociale, de la prévention de la délinquance, ou de la prévention de la radicalisation. Pareil, ça a été très à la mode à un moment, tout ça. Donc
Le racisme.
Voilà, exactement. Donc on balançait 3 francs 6 sous. Mais on avait du mal à, en dehors des grandes institutions, centres dramatiques nationaux, scènes nationales, qu'on peut avoir à Gennevilliers, en tous les cas en proximité chez nous, Gennevilliers ou Nanterre, à se dire, ben voilà, il y a des compagnies qui mènent un travail et qu'il faut les soutenir pour ce travail-là. Bien sûr. Travail de création et le travail purement artistique de création, ça, c'est très compliqué. Bien Donc, vrai. Il va falloir qu'on fasse des montages financiers pour essayer de prendre là et mettre là. Mais c'est une bagarre.
Par rapport à la diaspora justement algérienne en France, est-ce que l'État algérien participe d'une façon ou d'une autre ou pas du tout?
Non, on sollicite même pas parce que c'est pas déjà on va travailler nous principalement sur notre territoire. Je suis pas en France, sur notre territoire, c'est ça qui nous intéresse.
Ben oui.
On a alors il s'avère qu'effectivement tu fais référence à un truc d'il y a longtemps. Où le Théâtre du Calame avait représenté l'Algérie au Festival d'Avignon en 2015 et 2016. Mais c'est parce qu'on avait une coproduction en Algérie. Et le cahier des charges qui nous avait été imposé, alors effectivement, c'était pas du tout l'Algérie au sens du gouvernement, c'est une boîte de production locale qui avait envie de travailler sur une pièce de théâtre, donc ils nous avaient invités en résidence, etc. Et on avait créé un spectacle qui s'appelait... on en a fait deux, on a créé un qui s'appelait Batuta. Et d'ailleurs, il racontait l'histoire de l'explorateur Abu Mohammed Abdullah ibn Abdullah al-Lawati al-Tanji ibn Batuta, connu sous ce nom-là, qui est un explorateur du Maghreb du 15e siècle, hein, si ma mémoire est bonne, et qui a fait un parcours comme ça, initiatique, jusqu'aux portes de la Chine.
D'accord.
Et donc voilà, donc on avait cette coproduction, et effectivement, l'une des obligations qu'on avait, c'était de représenter l'Algérie au Festival d'Avignon. C'était purement symbolique. Et effectivement, on a fait une deuxième créa l'année d'après, qui était Simba de naissance d'un héros, un spectacle avec un calligraphe. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Et puis, c'est pas notre objectif premier, je dirais, de travailler. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment travailler sur notre territoire pour faire un peu avancer les choses et surtout défendre nos idées sur les territoires et notamment
Donc, vous vous sentez complètement intégré dans la société française? Quelque part.
Moi, je n'ai pas de problème avec ça à proprement dit. Après, moi, je suis quelqu'un qui essaye de défendre ses idées. Évidemment qu'on a un problème sociétal en France. Sur les questions, tu l'abordais tout à l'heure, sur les questions du racisme, sur la question, on parle beaucoup de laïcité. Mm-hmm. Souvent, moi, je l'ai vu, la laïcité, souvent, les gens sortent ce carton-là de leur pochette surprise parce qu'ils estiment que la laïcité, c'est l'élimination de toute différence, alors que c'est purement le contraire.
Et surtout par rapport à la radicalité islamique.
Oui, etc. Oui, c'est ça. Mmh. Mais je suis partisan de laisser les gens faire comme ils ont envie, et que souvent, il faut s'inquiéter pour les gens qu'on voit plus, mais pas pour ceux qu'on voit tous les jours dans la rue et qui se baladent avec leur. Enfin, voilà, les gens, ils portent un voile ou pas, ou ce qu'ils veulent, une kippa ou une croix, moi ça me regarde pas, tant que tout le monde est cordial, correct, et pour faire référence à la chanson de tout à l'heure, solidaire et fraternel. Ça, c'est des valeurs qui me paraissent moins importantes. Voilà, après, le territoire sur lequel on évolue, oui, moi, ça me... Après, voilà, on n'est pas seulement sur Colombes, on va travailler à Gennevilliers, on va travailler à Nanterre, on va travailler à Stain, on va travailler dans d'autres villes, avec des partenaires, d'autres structures locales, mais c'est vrai que la vie des quartiers, par le biais de son histoire, notamment ouvrière, nous intéresse beaucoup. Voilà, donc on va principalement faire ça. Moi, je suis très attaché à cette pratique-là avec les habitants, quoi.
Très bien. À toi, Nicolas.
Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra à la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher.
Dis-moi, Farid, avec Imba Touta et Simba de tout à l'heure, tu semblais aimer les voyages, mais il me semble que tu aimes aussi les bardes, finalement, puisque entre Idir et Grim Allwright, on est servi, non?
Ah, Grim Allwright, c'est pour moi l'un des plus grands artistes francophones. Et c'est étonnant parce que, évidemment, comme vous le savez, il nous vient de Nouvelle-Zélande. Donc, il est aux antipodes de chez nous, quoi, mais il a des valeurs qui, moi, me touchent. Mmh. J'adore cet artiste pour ses chansons. Et j'ai choisi particulièrement celle-là parce que bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'occupe de cette compagnie de théâtre, et c'est vrai que la période de Noël, pour les artistes, pour les compagnies de théâtre, elle est propice au travail. Et donc, voilà, nous, on fait beaucoup de spectacles de Noël. C'est arrivé un peu comme ça, parce qu'il nous manquait des heures à un moment, et on nous a proposé ça, donc on dit, bah, on va le faire.
Et on dans la tradition française aussi.
En plus, totalement, et on s'est dit, bah, tiens, c'est amusant. Et du coup, maintenant, le Théâtre du Calame est connu pour ses spectacles de Noël, alors que c'était très loin de moi à la base, vraiment. Mais en même temps, on s'amuse beaucoup à les faire, donc on va faire des spectacles immersifs. Mmh. Là, on va installer la fabrique, puisque c'est un spectacle immersif où les enfants partent à la recherche, comme ça. Voilà, mais c'est la complémentarité de notre travail, en se disant, on n'est pas des gamins, voilà. Et donc, on se dit, comment on fait pour travailler, mais aussi défendre des sujets qui nous tiennent à cœur. On parlera peut-être tout à l'heure, probablement, de ma prochaine création en 2023. Mais comment j'arrive à faire des choses qui me tiennent véritablement à cœur, et comment j'arrive aussi à ce qu'on arrive un peu à travailler, à avoir nos heures, notamment sur les spectacles de Noël. Et c'est pas seulement financier, parce qu'au fur et à mesure, on s'est aperçu que ça nous plaisait beaucoup, parce que ce personnage-là, il donnait un peu de plaisir aux gens. C'est un peu naïf et tout, mais pourquoi pas. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire ces spectacles-là avec mes copains et les gens qui bossent avec moi dans la compagnie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. À cette période qui arrive et qui va être, je l'espère, faste pour les artistes. Et surtout, Graham Allwright, c'est un personnage extraordinaire. J'adore cet artiste.
Mais tu aimes les chanteurs morts, mais tu aimes les auteurs vivants pour le théâtre?
Oui, j'ai mis du temps. Tu sais, quand j'étais jeune comédien, je voulais absolument, mais c'est peut-être un complexe qu'il faudrait étudier, je voulais absolument rentrer à la Comédie Française. J'avais 20 ans, tu vois, je me disais, oh, c'est génial et tout ce truc. J'en suis revenu largement, et j'avais beaucoup de mal avec les auteurs contemporains. Et maintenant, je m'attache à les découvrir de plus en plus. Alors, depuis plusieurs années, mais de plus en plus. Notamment les auteurs en Afrique, que ce soit de théâtre ou en littérature, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à arriver aux auteurs contemporains, et il y en a quand même des fantastiques.
Bon, ben, j'en profite, moi, pour donner quelques informations. À propos du théâtre, justement. Et donc, je reçois cette nouvelle à propos du Monto Gogol. Voilà, il y a une générale de presse le 7 décembre à 20h30 au Théâtre de l'Opprimé, pour les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire. Et donc, il faudrait s'atteler à contacter Madame Catherine Guise. Voilà. Qui vous reçoit absolument chaleureusement. Voilà. Donc c'est bien. Et puis aussi, il y a un petit travail aussi sur l'Islande, des chants d'Islande, des contes aussi, des Islandais, à la cartoucherie également, à l'épée de bois. Ça, vraiment, ça vaut le coup aussi. J'étais très intéressé, parce que ça parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes, etc. Et ça rappelle aussi un petit peu les contes orientaux. C'est curieux, parce qu'il y a de l'oralité. C'est accompagné d'un musicien absolument original aussi, qui utilise des instruments complètement fantastiques, qu'on ne connaît pas toujours. Voilà, en gros, quoi. Et puis maintenant, je me retourne vers notre amie Élie, qui est là, pour un petit peu partager la parole. Et donc, qui va se présenter. Vas-y, Élie.
Me présenter, oui, j'ai eu ce réflexe de dire metteur en scène, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans le théâtre on fait beaucoup de choses, on fait un peu tout. Donc voilà, d'ailleurs la dernière fois que j'étais venu aussi, c'était pour présenter une pièce où j'étais aussi metteur en scène, mais je suis un peu comédien, un peu moins cette dernière année, j'ai beaucoup mis en scène, je suis beaucoup de technicien aussi. Voilà, pareil pour faire les heures, ça fait partie de la beauté, je trouve, de ce métier. On compte pas nos heures, mais on fait des choses qui nous plaisent, et le statut d'intermittent nous permet à la fois de faire un peu de technique, et à la fois très intéressant, en tout cas pour moi qui démarre, et qui me permet de voir un petit peu comment techniquement on monte des spectacles, etc., la lumière, le son. Voilà, donc...
Bah, parle-nous un peu de ton spectacle.
Le spectacle en ce moment qui se joue, il y en a avec Isabelle Huppert qui vient de démarrer et un autre qu'on a commencé il y a un petit moment, donc La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams, mais donc du coup celle qui joue à la Comédie Nation. Voilà, qu'on a
qui est où, la Comédie Nation?
La Comédie Nation, c'est presque à Nation. C'est rue Montreuil, 77 rue Montreuil. Mmh. Voilà, qui est vraiment un petit théâtre, mais un super théâtre, bien équipé. Voilà, et on adore l'équipe. Ça fait trois spectacles que je présente, que je joue là-bas. Et on est très heureux d'y retourner, du coup, pour... alors, c'était 11 dates, maintenant, il n'en reste plus que 5. C'est tous les samedis à 21h. Et donc, du coup, on reprend cette ménagerie de verre qui est, comme beaucoup le savent, ce drame familial qui tourne autour des souvenirs de Tom, mais du coup, de la vie de Tennessee Williams. Et voilà, c'est une pièce qui me touchait à cœur parce que c'est vraiment... ça parle de la famille. Et moi, j'ai vraiment... la famille est très présente souvent dans... Et les relations avec les gens est souvent très présente dans mes spectacles. Et voilà, c'est un ami qui, après être venu me voir, ma première mise en scène qui s'appelait Arvat Apatride, et maintenant qu'il y a un nouveau nom aussi, on a changé pour que ce soit plus accessible.
D'accord.
qui parle un peu plus même de la pièce qui s'appelle Avant l'orage maintenant.
Vous êtes combien?
Sur scène, sur la ménagerie, ils sont quatre, donc pour les quatre personnages, il y a la mère, Amanda, qui est... pour moi, presque le personnage principal de la pièce. Il y a la fille, du coup, Laura, le fils, Tom, qui représente, du coup, Tennessee Williams. Et un galant, comme on l'appelle dans la pièce, un quatrième personnage qui vient un peu chambouler tout ça. Voilà, ça, nous, on a essayé de condenser tout ça en 1h25, parce que la pièce est très longue. On a voulu apporter...
Ça dure combien de temps?
1h25.
1h25.
Qui est la pièce, normalement, elle dure presque 2h30, parce que si on met tout dedans. Voilà, et c'est vrai que quand, celui qui joue sur scène, donc mon ami Arthur, qui est venu me voir en janvier pour me dire « J'ai très envie de monter la ménagerie, est-ce que ça te dit ?» Je lui dis oui, mais je lui dis « J'aimerais bien qu'on en discute. »
Alors, d'où ça vient ce nom, la ménagerie ?
La ménagerie de verre, en fait, c'est que, du coup, la pièce tourne autour de cette petite des souvenirs de Tom, et dans ses souvenirs il y a notamment la ménagerie de verre de sa sœur, du coup, qui prend une place importante, puisque c'est ça condense un petit peu le côté imaginaire et le côté un peu différent d'abord de Laura, mais aussi de la pièce dans son ensemble, parce que elle traverse les souvenirs de Tom, donc il y a quelque chose qui on est vraiment dans le réaliste à plein de moments, et d'autres choses comme Tennessee le fait parfois dans ses biographies, qui sont très différentes de ce que d'autres biographes racontent de lui. On fantasme un peu la réalité, met la place de son père un peu différente. C'est vrai que dans la pièce, son père a cette image d'homme qui est parti et qui n'est jamais revenu. Dans la vraie vie, effectivement, son père est revenu, il y a une autre histoire derrière. Mais il veut raconter un petit peu tout ce qui se passe avant son départ. Voilà. Et donc, on joue beaucoup avec le fictionnel. C'est un petit peu ce qu'on a voulu aussi, apporter quelque chose de léger, malgré dans ce drame familial très dur, quelque chose de très poétique. Et c'est cette liberté que nous offre, voilà.
Même question que pour Ferid. Est-ce que vous êtes aidé un peu?
Alors, on aurait bien aimé, mais non,
encouragé.
Malheureusement, on est ni encouragé, ni béni.
Ah bon?
Donc, on a comme le premier spectacle, c'est-à-dire on s'est autofinancé. Ah. Donc, voilà, ça demande certains...
Qu'est-ce que tu appelles autofinancé? Chacun
c'est-à-dire,
de sa poche?
Exactement. C'est-à-dire, globalement, Arthur et moi, on a décidé de... Et puis, c'est une pièce avec des droits, du coup. Et donc voilà, de mettre de notre poche, de faire le pari de remplir un peu la salle. Voilà, on sait que de toute façon c'est un budget, etc., qui n'est pas profitable. C'est plus une création pour travailler, pour j'ai envie de dire presque se faire un kiff, mais voilà, c'est pas rentable. On y perd, mais c'est presque le principe de l'intermittence parfois quand on est jeune. On fait des heures à droite, à gauche pour remplir. Et voilà. Après, honnêtement, c'est vrai que quand on a démarré tout ça, on s'était dit, on démarre aussi parce qu'on a cette idée d'avoir des financements, d'avoir des gens qui allaient nous suivre. Même, On a rencontré des gens même dans la sphère privée. Voilà, finalement, ça s'est pas fait. Mais voilà, je dis souvent que la contrainte crée la créativité. Et donc, il y a quelque chose à un moment où on le fait, on y va, même si au début du projet, on avait plein d'ambitions, du décor, etc., de payer tout le monde, toutes les dates. Enfin, voilà.
Il y a une tournée prévue ?
Non, il n'y a pas de tournée. Pour l'instant, alors il y aura une petite pause et voilà, je n'en dis pas beaucoup plus, mais c'est vrai que...
Toujours au même endroit ?
Non, du coup, pas au même endroit. Là, on finit jusqu'au 17 décembre, à la Comédie Nation.
Mais tiens, ensuite, redonne l'adresse exacte.
Donc, à la Comédie Nation, les samedis soirs, à 21h, voilà, 77 rue de Montreuil.
Et, métro
Métro Nation, métro Nation. Rue des Boulets, c'est presque entre les deux. Et voilà, c'est un moment vraiment qu'on a l'impression qu'on a réussi en 1h20 à bien condenser la pièce en parlant de tout ce que Tennessee Williams, on sait beaucoup, on a essayé de se renseigner pas mal sur lui, sur ce qu'il a voulu mettre dans la pièce, sa relation à sa sœur. Il a énormément souffert que quand ils reviennent, sa sœur dans la vraie vie, elle se fait interner.
La musique est bien représentée aussi.
Oui, bah j'ai essayé de faire un petit peu ce que tu as vu dans le premier spectacle, donc avoir une musique assez présente. Alors comparé à mon premier spectacle où je m'étais permis de faire plus dans les années 70, alors que la pièce se passait dans les années 30. Là, on essaye d'être assez fidèle aux années 30. Alors à part quelques choix comme Sam Cooke, qui est un artiste que j'aime beaucoup, on a beaucoup de musique fidèle des années 30. Pareil avec un décor qui me semble aussi être fidèle à cet appartement. Et voilà, c'est à la fois très réaliste et très poétique, il me semble. Enfin, c'est ce qu'on nous dit aussi. C'est toujours dur, je trouve, de juger son propre travail, etc. Donc voilà, je vous conseille, si jamais on met, ceux qui écoutent, de...
Est-ce que tu aurais une réplique à donner aux auditeurs, auditrices de Radio Libertaire?
Une réplique une réplique qui pourrait être dans la pièce et qui pourrait parler de... là, en tête, j'en ai pas.
C'est pas grave.
La pièce raconte beaucoup les souvenirs de... Alors, je dirais pas que c'est une pièce, mais je dirais... une phrase, mais je dirais que c'est plutôt ce concept des galants qui représente, en fait, pour moi... elle parle souvent de la mère de ses 17 galants. Donc, et en fait, ce qui est très intéressant aussi dans cette pièce, c'est qu'elle parle aussi de conflits de génération. Et avec cette mère qui a grandi de façon très catholique dans une génération où les femmes, elles restaient à la maison, etc., où leur futur était de se trouver un mari et de s'occuper de la maison. Et elle évolue dans une société tout doucement où, en fait, ça change, où les femmes se mettent à travailler. Et elle se rend compte que, du coup, sa fille n'est ni bonne à marier, presque, ni bonne à aller l'aider et aller travailler. Donc... Et c'est vrai qu'elle motive toute cette famille en cette vision et ce futur de trouver un galant pour Laura. Et c'est vrai que du coup, c'est presque l'élément déclencheur de la pièce, puisque tout démarre quand elle se rend compte qu'elle n'a plus d'avenir pour Laura que de lui trouver un galant. Et elle envoie comme mission même à son fils, qui prend la place du père, presque du mari. Il y a une relation qui est très forte et à la fois très dérangeante dans cette pièce.
Eh bien, on va laisser la parole à notre ami Nicolas.
J'aurais peut-être une question à ce moment-là. À défaut d'une tirade, tout bêtement, on est à la Comédie Nation, le noir se fait... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend? Première réplique.
Je vais pas faire une réplique, mais je vais vous dire que c'est le bruit d'une tempête.
Le bruit d'une tempête.
Oui, ça démarre avec le bruit d'une tempête qui est une sorte de flashback qui devient la fin de la pièce. Donc s'il y a, alors peut-être pas une tirade, mais des mots à retenir, c'est plutôt le bruit de l'orage.
La tempête.
Petite question, comme tu es le metteur en scène, tu peux te glisser discrètement à la sortie et ne pas être reconnu en tant qu'acteur, justement.
Oui.
Tu l'as fait, et quel est ton plaisir à ce moment-là de te dire « on a réussi la pièce »
C'est vrai que c'est une frustration un petit peu, surtout que parfois je suis pas forcément toujours à la régie. Sur mon premier spectacle, j'avais cette chance d'être tous les soirs derrière et de faire la régie et de voir le spectacle. C'est pas le cas ici pour un problème de calendrier, etc. Mais voilà, c'est vrai que il y a là-dedans. Là, on faisait une date à Ville d'Avray pour avant l'orage et. Il y a quelque chose de très agréable d'être souvent dit de cette personne de l'ombre. Et je trouve que, malgré tout, je dirais plutôt l'inverse. Je trouve que c'est une responsabilité assez dure de monter sur scène. Je le fais et je l'ai fait parfois, mais je me plais plus d'être dans cette place de metteur en scène. Ça me met à la fois en devant de scène et peut-être que je me suis rendu compte en grandissant, ça me plaît dans la sphère privée, être le rigolo du spectacle, mais moins je suis presque dérangé parfois face au retour.
Et t'as choisi quelle traduction de Shakespeare? De Tennessee Williams.
Alors j'ai choisi, pour ceux qui comprendront ce que je vais dire, c'est la seule qui est presque possible en France, celle d'Isabelle Famchon. Voilà, c'est presque, honnêtement, c'est un peu la seule qui est faisable en France quand on demande les droits. Donc c'est celle qui se fait. On s'est replongé dedans quand on a vu avec les droits que c'était celle qui nous demandait. Mais c'est vrai que on avait eu au départ un petit coup de cœur pour Pierre Laville, on l'avait rencontré, etc. Mais on est très content. Trop compliqué, voilà, d'avoir les droits, voilà, avec cette tradition-là, mais on a redécouvert presque le spectacle en se replongeant dans celle d'Isabelle, et il y a des phrases qui sont tellement jolies que voilà, on a fait le retravail de coupe, etc., mais on est très fidèle à cette belle aussi de traduction de Isabelle.
À toi, Nicolas.
Allez, suite de notre clin d'œil à l'ami Michel Buller, dit Bubu, disparu récemment.
Elle habitait rue de la Roquette, tout en haut d'un vieil escalier. Chez elle, il n'y avait pas de moquette sur le palier. Pas de homard en céramique sur un buffet Louis machin. Rien qu'un grand lit plein de musique, et c'était bien. Son compagnon, un photographe, s'était tiré quelques mois plus tôt. Elle avait laissé en carafe comme un salaud. Depuis, elle attendait sans hâte que reviennent des jours meilleurs, entre des fleurs et une chatte folle d'ailleurs. C'est elle qui m'avait accueilli lorsque je traînais dans Paris. La journée, elle était graphiste. Le soir, elle fumait un peu, simplement pour être moins triste, pour être mieux. Elle gardait d'un lointain dimanche, plus que les autres gris et laid, de fines cicatrices blanches à ses poignets. Elle avait des amis bizarres, des Québécois trapus, barbus, des ivrognes que par hasard j'avais connus. Et c'est dans la rue des Canettes, un soir de bière et de chansons, un soir où je faisais la fête que sans façon. Elle m'avait dit, viens dans mon lit, au lieu de traîner dans Paris. Elle avait des caresses lentes, comme quand on a tout son temps. Elle avait des gestes d'amante, oui, et pourtant il n'y avait pas d'amour entre nous, de serment ou de cinéma. Je m'en méfiais plutôt, voyez-vous, en ce temps-là. Avant que la chanson se termine, il faut encore que vous sachiez qu'elle avait la bouche enfantine de petits pieds. Ces choses-là avaient de l'importance pour moi, comme ses cheveux roux. Puis elle est partie en vacances, je ne sais où. Je ne l'ai pas revue depuis. Alors moi, j'ai repris ma vie. Celui qui a fait cette complainte se souvient encore à présent de son cou, de ses lèvres peintes, de ses seins blancs. Il envoie un peu de tendresse à celle qu'il avait accueillie, alors qu'il traînait sa tristesse dedans Paris. Un peu de tendresse comme ça, en souvenir de ce temps-là. Un peu de tendresse, et c'est tout, simplement parce que c'était doux.
Michel Buller, chanteur suisse, effectivement, qui nous a quittés tout récemment. Et puisque la question nous a été posée au téléphone, le prix des places pour la ménagerie de verre de Tennessee Williams, eh bien, c'est une pizza et une salade. Et le tarif réduit, c'est une pizza et un café. Voilà, ça, c'est pour les gens qui se disent « Oh, le théâtre, c'est cher ». Eh bien, quand vous allez au resto et que vous payez une pizza et une salade 20 euros, c'est finalement 5 personnes, 4 personnes sur scène, un régisseur, etc., qui vous offre une pièce de théâtre pendant une heure et demie. Le tarif réduit est de 15 euros, comme je vous l'ai dit. Et petit cadeau tout de suite de Evelyne.
Donc, chant. À des milliers de kilomètres de moi, semblable aux bois, aux bêtes et aux rivières et aux parcs de chasse, dans le paysage de mon enfance, avec son pavillon en bois, où à l'instant même les chauves-souris se réveillent dans les combles, à des milliers de kilomètres de moi, et pourtant toujours là, comme les morts dans les vieilles demeures qu'on voit lire à la lumière d'une lampe, lire tranquillement d'un œil faiblissant. Un livre de recettes écrit à la main. 150 grammes de beurre, 4 jaunes d'œufs, 300 grammes de sucre. Ou bien feuilleter un illustré de l'an 1928 avec des vues de port, avec des tonneaux à la traîne entre les barques, sur l'eau épaissie, sale, pleine de sciures et de bouts de bois sous le bord du quai. Un petit orchestre au coin vent les scies à la mode. Avec des photos d'art nègre, d'étoiles, du music-hall, de danseuses, d'indigènes, de Tahiti, de chanteurs de jazz, de sculptures, de Rodin, de salles de bain modernes et d'hommes en chapeau melon qui réparent la chaussée de l'an 1900. Tandis que d'autres, en haut de forme, montent posément sur l'impérial de l'omnibus direction Gare de l'Est. Il n'y a pas si longtemps, je m'y promenais encore, devant la grille de fer, sous laquelle s'étendent les quais et les halls où nous étions arrivés. Nous nous étions descendus dans le métro. Nous nous étions ensuite ressortis à la station La Motte-Piquet-Grenelle. Nous étions à Paris. La tour Eiffel à portée de la main comme une maquette, comme un modèle réduit de la tour Eiffel, posé sur la taille de travail. Des enfants faisaient du patin à roulettes sur l'esplanade, entre les deux escaliers, par lesquels, de part et d'autre, on arrive au Trocadéro. Plus tard, j'y suis souvent retournée avec le chien Yuki, sous la voûte élevée des quadruples allées. Les marrons tombaient brusquement et à pleine poignée. Feuilles, l'automne arrivait. Les rails ensevelis se souvenaient du tramway. À des milliers de kilomètres de moi, dans des lieux dont je ne sais rien et qui ne savent rien de moi, à des milliers de kilomètres de moi, dans le paysage de mon enfance, avec un crapaud dans un petit pré lunaire, contemplant une Amazone qui ensuite disparaît, qui ensuite s'enfuit au galop, par l'allée montant au château, en longeant la Garenne, à des milliers de kilomètres de moi, en passant devant le treillis de la clôture, à travers laquelle on voit des cygnes au cou serpentin, à des milliers de kilomètres de moi, en passant devant la grange seigneuriale, devant une maison aveugle aux fenêtres envahies de toiles d'araignées, devant les bâtiments de la ferme, à des milliers de kilomètres de moi, en haut d'une petite colline qui s'appelle Kristallov, là où des mouches bleu-vert, grandes comme des boutons étincelants, volaient autour des papiers gras, des restes des crottes des pique-niqueurs, là où la nuit noire noie et transforme tout, là où la lune remplit ses aquariums silencieux, fosse à purin et cours revêtus de pavés inégaux, là où il y a le monde et l'univers en dehors de moi, et au-dedans de moi, et partout, et ailleurs que partout, à des milliers de kilomètres de moi.
Le texte est de Yvan Blatny, c'était offert par Evelyne. On aura tout à l'heure un texte de Hugo Victor, il me semble, offert par Jean-Marie. Et puis une autre lecture commune, Hélas le vent d'octobre, par Evelyne et Jean-Marie simultanément. On en revient à l'ordre alphabétique de Zerzour à Abaïd.
Ben écoutez, moi je vais vous relire un petit texte sur, bien entendu, l'histoire actuelle, c'est-à-dire la commémoration du 17 octobre 61. Voilà, du nouveau sous les ponts. Paris 61, 17 octobre, on est à l'heure grise, où le pays se met à table en disant « c'est l'automne ». Lorsque, silencieux, venus des bidonvilles et cagnards, des Algériens français, sur le soir envahissent de leur foule entêtée les boulevards, ils n'aiment pas ce couvre-feu, qui les traite en coupables. Décidément, ça fait trop d'Arabes qui bougent. Oui, le pouvoir envoie ses flics sur tous les ponts, nous montrer qu'à Paris, l'ordre règne. Il pleut sur les marcheurs, il pleut, et sur les casques. Il va bientôt sur les cris pleuvoir, oui, pleuvoir sur le sang. Sur Arsène Boulanoir, battu puis jeté à l'eau, en chemise et sans connaissance, vers Notre-Dame, il fait noir. Le choc le réveille, il nage. La France en est à la soupe. Et sur Bachir Aïdouni, pris avec d'autres marcheurs, lancés dans l'eau froide à l'Essimple, de leur douar jusqu'à la Seine, Bachir seul retouche au quai. La France en est au fromage. Sur Kebash, avec trois autres, qui tombent depuis le pont d'Alfortville, on leur a cogné moins fort puisqu'ils remontent. Les frères en sont-ils passés? La France en est au dessert. Et sur les quatre ouvriers menés d'Argenteuil au pont neuf, pour y être culbutés dans l'eau noire en souvenir de nous, un seul va survivre. La France, elle en est à rôter. Et sur les 30 à Nanterre, roués de coups précipités, depuis le pont dit du château, 15 à peine, à peu près, vont au fond, tirent à vue sur ce qui nage. La France, elle est bonne à dormir. Voilà, c'est un petit souvenir, un clin d'œil. Voilà. Donc on revient à notre ami Ferid. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous rajouter à propos des projets à venir? Tu allais en parler justement du programme 2023.
Oui, alors 2023, on souhaiterait faire un spectacle. Alors on en discute un peu là, on sait pas trop par quel bout le prendre. On a envie de travailler. Alors est-ce que ça va aboutir? C'est un peu l'espoir, Inch'Allah, comme on dit vers chez vous là.
Et comment ça vers chez nous? Chez vous aussi?
Ah oui, c'est vrai, je l'ai entendu de
comment on le dit en kabyle d'ailleurs?
Inch'Allah.
Eh ben voilà, c'est pareil.
Et on va travailler certainement un spectacle sur la frontière entre le Maroc et l'Algérie.
Très voilà. Bien.
On a envie de travailler là-dessus, c'est un sujet qui est un peu absurde, je crois, depuis longtemps. Alors voilà, il y a eu l'escalade n'a fait qu'évidemment s'aggraver. Du coup, depuis avec la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Donc voilà, mais c'était déjà très très envenimé bien avant, il y a déjà 20 ans et plus encore. Donc voilà, cette question nous intéresse parce que on a des copains qui habitent aux abords.
Et la Tunisie alors?
Ben, la Tunisie, ouais, c'est vrai que la Tunisie.
Parce que le rêve des États-Unis et du Maghreb est toujours. En cours.
Bah en ce moment, il me semble qu'il y a la semaine de la francophonie là à Djerba. Mm-hmm. Donc la Tunisie essaye de se relever un peu comme elle peut. Ça avait été la Tunisie était pleine d'espoir à mon avis. Mm-hmm. Puis là, moi je sais pas trop où ça en est, donc j'espère que la Tunisie se relèvera. Alors politiquement, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, mais c'est des pays quand même. Car la Tunisie, c'est un pays qui a perdu un peu de sa superbe, malheureusement. Donc j'espère qu'ils vont renaître de leur sang. Dans tous les cas, en ce qui nous concerne, on va travailler sur une écriture.
As-tu pensé à un titre ?
Non, pas du tout, non. C'est vraiment les idées qui ont fusé comme ça avec les copains.
D'accord.
Et on s'était dit que ça pourrait être intéressant, tu vois. C'est pour ça que je faisais le pendant sur nos spectacles qu'on va faire aussi pour Noël. Ce sont des spectacles un peu, finalement, très académiques, tu vois. Hein. Mais ce sujet-là, il est très... moi, j'ai déjà reçu des conseils bienveillants de la part des deux côtés qui me disent « Non, fais pas un spectacle là-dessus, et c'est pas intéressant. » Alors qu'évidemment, quand on me dit ça, moi, ça m'intéresse encore plus. Mais c'est un sujet, voilà, parce qu'il touche principalement des habitants des deux rives, je dirais, ou en tout cas des deux côtés de la frontière. Et par exemple, quand on habite, par exemple, je sais pas, à Oujda, et qu'on veut aller de l'autre côté de la frontière algérienne, qui est à même pas 100 km, il faut se taper 1000 km pour aller à Rabat, prendre un avion, atterrir à Oran et se taper encore. Enfin voilà, donc c'est complètement...
Et puis ça concerne les Français marocains, Français algériens...
Voilà, très Français bien. Alors, j'estime que ça, c'est encore un peu autre chose, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aborder la question en local, je dirais, sur les villes limitrophes, la relation qu'il y a. Il y a eu dans le passé beaucoup d'échanges commerciaux. Alors, d'un côté, on envoyait ce qu'on appelle zitergen, donc de l'huile d'argan du Maroc qui allait vers l'Algérie. L'Algérie envoyait du pétrole, de l'essence, du ce qu'il pouvait. Et il y avait ces échanges un peu comme ça qui se faisaient.
Est-ce que la question sahraoui entre dedans aussi, dans ce programme?
Je crois que dans le spectacle,
oui.
c'est pas particulièrement au programme.
Vous me l'évitez.
C'est pas ça, non. Parce que moi, j'assume tout. La question sahraoui, elle est encore différente, parce qu'évidemment, elle va parler de l'émancipation du peuple sahraoui. Donc, c'est autre chose. Alors, peut-être c'est le sujet d'un autre spectacle, pourquoi pas, un jour. Et puis, c'est un sujet que je connais très mal, je dois le dire. Mais en tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est la relation de bon voisinage entre, finalement, en sachant qu'en plus, il y a des Marocains frères qui habitent en Algérie. Il y a eu des échanges comme ça dans les années 50, 60, 70, et après encore avant la fermeture de la frontière. Donc, il y a plein de gens qui ont des familles, des gens qu'ils ont envie de revoir et tout. Et ça se fait pas pour des raisons...
Est-ce qu'il y a des berbères au Maroc?
Il y en a plein. Puisque la culture amazigh, de manière plus large, elle va... je ne suis pas un spécialiste non plus, mais je crois qu'elle va des îles Canaries jusque en Égypte, quoi. Donc, c'est très, très large. D'accord. C'est très, très large dans dans la géographie, cette culture amazigh, elle est très très large. Nous, par exemple, je sais qu'il y a un collectif qui est en train de se monter à Colombes pour fêter le nouvel an berbère.
D'accord.
Voilà. Donc, on va travailler en tous les cas sur la question de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Par exemple, je sais que dans le nord, là...
Et en langue berbère?
Peut-être, alors non, parce que ça va, je veux que ça soit un spectacle francophone, je veux que ça soit un spectacle qui parle aussi qui a une résonance en France. La francophonie a encore un peu de place, puisqu'on parle français en Algérie, on parle au Maroc, etc. Donc peut-être c'est un voyage qui est un spectacle qui voyagera, je ne sais pas où ça, mais en tous les cas, on a envie de parler de cette question-là. En plus, j'ai pas tous les ressorts de la fermeture. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la vie. Donc, c'est une écriture, c'est une création sur les habitants qui habitent aux abords de la frontière algérienne.
Sensibiliser un certain public.
Voilà, et puis de se dire comment ils arrivent à vivre. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est totalement stupide? Est-ce qu'ils peuvent se parler comme ça? Je crois que moi, je suis convaincu que si la France et l'Allemagne ont réussi à se réconcilier très rapidement. Je vois pas pourquoi le Maroc et l'Algérie n'arriveraient pas à le faire. En sachant qu'en plus, tu parlais tout à l'heure de la diaspora en France, que ce soit des Marocains, des Algériens, qui, je crois, de manière très écrasante, s'entend d'une manière très fraternelle.
Complètement.
Et donc, on va vraiment réussir à trouver un compromis. Enfin, voilà, après... Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais envie de célébrer.
D'accord.
Voilà, donc c'est un des sujets sur lesquels on aimerait...
À toi, Nicolas.
Shut up. سيفي حزني فسن ذيك ما يسعظ الغضنا ولما لزيت وسن حفي السزني ذشنا زد غرمن سندو تقسيتي وتغرى ميلهما يغين ذي انتو يفرو هذي انتو يفرو صرف ليك ما بينهما صرف ليك ما بينهما السندو السندو ثاف كغدو ذي دملا السندو
Radio Libertaire, 89,4 MHz, faut pas me provoquer, moi je passe y dire si on m'en parle avec Essendo. Quelques explications, tiens, on en profite, puisque t'as le micro, ça raconte quoi la baraque
bah, et ouais, c'est ça, c'est liste, c'est Idir raconte ce, mais c'est purement dans sa veine, hein, pastorale, totalement. Il raconte l'histoire de ce lait qui est battu et tous les bienfaits qu'il va faire. Ça veut dire qu'il va donner le lait qui va être bon et blanc. Et qui va être nourrissant, donc il y a toute cette métaphore. C'est une comptine, hein, quasiment, hein, parce qu'en plus. Il y a ce parallèle avec le conte pour dormir, quoi. Quand on berce, comme ça. C'est fantastique. Quoi.
Et il y a une version publique où il dédie cette chanson à toutes les femmes, à toutes les mères, et fait chanter le public au fur et à mesure là-dessus.
Absolument, sur l'un des concerts, les plus récents, peut-être 10-15 ans, mais puisque cette chanson, je pense qu'il a dû l'écrire dans les années 70, puis il y a cette nouvelle version où il dédie ça effectivement à toutes les mères, et il raconte comme ça.
Parce que le lait vient de là, en fait.
Oui, aussi, voilà, c'est le lait maternel.
En têtant la maman.
Ou la place de la mère est centrale. Voilà, et il rend hommage aux femmes, aux mères aussi en particulier. Donc, Sundo, c'est une chanson qui est extraordinaire.
Élie, tu as envie de rajouter autre chose?
J'ai même envie de dire que pour ceux qui ont demandé les prix, la communication a même un système. Ils arrivent à quand même casser les prix, je trouve, par rapport à la plupart des théâtres. Et c'est vrai que le prix le plus cher qu'on peut payer à la communication, c'est même 18 euros. Et que globalement, la place, elle est plutôt autour de 14,50. Donc voilà, même pour c'est du théâtre abordable, même pour les...
Il y a des réductions pour les seniors, bien sûr.
Il y a des réductions pour les seniors, il y a des réductions pour les demandeurs d'emploi, il y a des réductions pour les gens du quartier, enfin voilà. Donc voilà, nous, on a essayé vraiment de mettre beaucoup de nous et beaucoup de Tennessee Williams, d'être fidèles à la pièce, voilà, d'avoir un beau moment de poésie pendant 1h25.
Est-ce qu'il y a des anglophones qui viennent aussi, en tant que spectateurs?
Alors, on en a eu, mais c'était des amis proches. Mais oui, on a eu des gens qui... Il y en a eu même deux qui sont venus sans vraiment comprendre le français. qui venaient de Londres. Et ils ont passé un... Bon, après, c'est des amis, mais ils nous ont dit qu'ils ont passé un bon moment. Ouais. juste en étant juste sur le visuel.
Et sur l'histoire de cette création, la Tennessee Williams, vous l'avez montée quand? Vous l'avez répétée quand? Vous l'avez répétée où, par exemple? Ça m'intrigue toujours, les lieux de répétition, moi.
Et ben,
c'est tellement difficile à trouver.
On a commencé le travail en janvier. On a eu tous nos comédiens début mai, pour vous dire qu'il y a eu quand même beaucoup de temps. Et on a répété une partie, un ami qui a un appartement avec un grand salon. Donc voilà, ça c'est le début. Et ensuite, on a loué en partie la salle de notre ancienne école, avec le directeur qui a été super et qui nous a fait un forfait pour une quarantaine d'heures. Globalement, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, pareil, on a reloué, on a fait une résidence dans le théâtre même dans lequel on jouait. Mmh. Donc c'est vrai que c'est super, bon, sans lumière, un plateau nu. Mais on se débrouille un petit peu avec, comme on disait tout à l'heure en off, mais c'est des métiers, c'est des rencontres, donc on fait avec le réseau qu'on a et de discuter avec nos anciennes écoles, les lieux qui nous accueillent, etc., de faire au mieux avec tout ça.
Moi, je me suis aperçu un peu avec le temps que c'était quand même très hiérarchisé, très difficile de trouver des espaces, tu vois, il y a des compagnies ou des structures qui vont pouvoir aller répéter à... tu vois, je me rappelle d'Ariane Mouchkine qui avait emmené, toute l'équipe, ce qui correspond à 80 ou 70 ou 100 personnes pour aller répéter en Inde. Et t'as des compagnies du territoire pareil qui vont galérer à trouver une salle, donc ils vont répéter dans un couloir et tout. Il y a aussi une forme de grande injustice sur les processus de création. Et notamment pour les... Je sais pas quel âge elle a, ta compagnie, toi, Ellie.
Elle a un an. Et c'est vrai que... Alors nous, on est un peu... Maintenant, j'ai deux compagnies, donc il y a un peu de monde. On arrive à... Ça fait un petit moment, on travaille avec nos anciens professeurs, etc., qui nous donnent des contacts. Mais c'est vrai qu'on a envie de se dire... on répète globalement dans nos salons. Mmh. Et ensuite, ça nous coûte quand même du budget, alors que, on fait tout avec
notre propre argent. Vous en aviez pas déjà la base. Mais tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup frappé. Alors, je vais revenir sur cet épisode du Covid. Mais je me suis dit, purée... Ça m'a rappelé, moi, mes jeunes années d'acteur. Je me suis dit, mais en fait, quand tu sors de l'école de théâtre, puis là, en plus, c'était la période, parce que c'était le mois fin de l'année, mars, tout ça. Et on se dit, mais les jeunes compagnies, t'es là, t'es plein d'espoir, tu dis, je vais monter un spectacle.
Largué.
Et là, bam, tout est fermé, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, j'ai vraiment souvent une pensée pour eux, parce que je me dis, eux, on leur a coupé les ailes en plein vol. Avec cette histoire de Covid, alors qui est, à mon sens, justifiée, quoi. Il y a des raisons qui sont importantes, mais je sais pas s'ils ont eu des facilités, tout ça, mais c'est vrai que pour toute ce contingent qui est sorti des écoles de théâtre en 2020, t'as tes jeunes metteurs en scène, jeunes acteurs.
Souvent, c'est autour des mairies, tout ça, quoi.
Ouais, nous, on a eu une chance quand même incroyable que l'année dernière, quand on a proposé le premier spectacle à la Comédie Nation, il y a eu un désistement. Et donc, au dernier moment, la directrice, m'a appelé, m'a dit, sur toute la liste de tous les dossiers que j'ai sur mon bureau, vous êtes celui qui m'intéresse le plus. Et elle m'a dit, j'ai 14 dates qui viennent de s'annuler, est-ce que vous êtes prêt à partir? Donc c'est vrai qu'on est sorti de l'école avec un spectacle tout prêt, mais on était en train de prospecter et tout le monde nous disait, non mais tout est bloqué jusqu'à 2023, il n'y aura rien, il n'y aura pas une place. Et eux, ils nous ont fait confiance, et on a eu cette chance d'avoir ce créneau. Mais sinon, même quand on discute, on arrive quand même à essayer d'envoyer des mails, on a un peu des gens au téléphone, etc. On va sur les lieux et c'est vrai que tout est surbooké. Quand on démarre, c'est compliqué de nous faire confiance quand on est sorti du Covid, qu'on démarre.
La diffusion du spectacle vivant, c'est un vrai sacerdoce. Hein. Avant de diffuser, de vendre un contrat, c'est très très difficile. Et là, par exemple, c'est quoi les conditions? C'est un partage de recettes? C'est un minimum garanti?
Alors, il y a quelque chose aussi incroyable, la commission. Alors, si vous êtes une jeune compagnie, ils sont adorables, ils ont un plan de feu qui est super et ils ont un système économique qui est quand même super. Il n'y a pas de minimum garanti, donc ça, c'est quand même super. Et ensuite, ils ont un partage qui se fait, moi je trouve très juste. Les 140 premiers euros, ils sont pour le spectacle. Les 140 qui suivent, ils sont pour la compagnie. Et ensuite, c'est du 50-50. Donc au-dessus de 480, c'est du 50-50.
Quand tu dis, ils sont pour le spectacle, ils sont pour le théâtre.
Oui, ils sont. Non. Les 200, pardon. Les 240 qui, si j'ai pas été très clair, les 240 qui les 240 premiers euros, ils sont pour le théâtre. Les 240 qui suivent, ils sont pour la compagnie. Et ensuite, c'est du 50-50. Okay. Et c'est vrai que nous, honnêtement, sur la première exploitation là, d'avant l'orage, on a permis de mettre un peu d'argent dans la compagnie. Et c'est bien.
Il faut remplir, quoi. C'est combien de places?
C'est 80 places. Ouais. Mais ce qui fait que l'avantage, c'est que si un soir, on fait très peu de personnes, on leur doit rien. On leur doit juste la billetterie, mais on leur doit pas avancer. Et c'est vrai que c'est très rare aujourd'hui de trouver ce genre de... Donc voilà, honnêtement, c'est pas mal.
Moi, je trouve que c'est devenu quand même très difficile de jouer à Paris, quoi, hein, dans de bonnes conditions. Tu vois,
et comment ?
C'est-à-dire moi qui suis pas forcément un grand partisan du minimum garanti et de voilà, tu vois, tu te dis en fait eux ils vont jouer, mais ça veut dire que et si par exemple vous arrivez pas à 240 euros, comment ça se passe ?
Bah juste on leur, c'est ça qui est bien, c'est qu'on leur doit juste ce qu'on a fait, ce qu'on a mis, c'est-à-dire que s'il y a que 3 personnes, on leur doit juste la billetterie de 3 personnes. Ah, et le lendemain, donc ça c'est quand même très juste. Mais c'est vrai que on a fait venir du monde pendant l'exploitation d'avant l'orage, etc. Mmh. Et il y a eu pas mal de professionnels qui sont venus et on a eu plein d'offres. Mais on a dit, mais nous, sortir 2000 balles maintenant, plus un minimum d'air garanti qui est à 360, on ne peut pas. Et en plus, on démarre. Donc, même si vous nous dites, on va faire une partie de la com, etc., on ne sait pas si on va remplir tout ça.
Ouais, c'est ça.
Donc,
c'est
très, très difficile.
C'est vrai que c'est un vrai parcours du combattant, ouais. Diffuser un spectacle.
Tu parlais de salle tout à l'heure. Moi, souvent, je propose aux copains, aux gens que je connais, qui cherchent des salles, le théâtre du Nord-Ouest.
Ah ouais,
rue du Faubourg Montmartre, Jean-Luc Génère. Et ils sont vraiment très ouverts.
Qui est une institution, hein. Je sais pas, il a toujours ses cycles.
Moi, j'ai joué là-bas.
Des cycles Molière, des cycles Shakespeare. Fantastique.
J'ai joué un monologue sur c'était hier, Sabra et Chatila.
Ouais.
Au théâtre du Nord-Ouest. Et vraiment, on se sent chez soi, quoi. C'est tellement ouvert.
C'est une belle petite salle, hein. C'est joli, le théâtre du Nord-Ouest.
Oui, c'est très, très bien. Et puis, il n'y a aucune condition particulière. C'est bien, ça vaut le coup.
Non,
il
n'y
a pas beaucoup qui sont comme ça. Mais autant en profiter, quoi, quand il y a des ouvertures. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous communiquer, une chanson berbère peut-être, je sais pas moi.
On a donné avec Idir, je pense.
Non mais autrement.
Alors non, pas particulièrement. Ce que je voudrais ajouter, c'est de dire que en tout cas nous, au théâtre du Calame, le travail de compagnie se fait quotidiennement.
Mm-hmm.
Moi, je me rends compte que on est submergé par des demandes. C'est vrai que c'est très très difficile parce que c'est un sacerdoce.
J'imagine.
J'ai un copain qui dit tous les jours tu te lèves, tu vas chercher ton steak, parce que moi j'ai pas de contrat. On a des contrats journaliers, tu vois. Et donc de lundi je vais aller au travail, donc il faut que j'aille trouver un partenaire, un lieu de diffusion, un lieu de création, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui s'entrechoquent dans une compagnie.
Bien.
C'est un peu pendant longtemps, moi quand j'ai débuté un peu cette compagnie, alors maintenant on est un peu plus structuré, fallait tout faire, fallait être régisseur. Fallait conduire le camion, fallait travailler sur le décor, fallait être metteur en scène, fallait être comédien, fallait être un peu commercial parce que fallait vendre le spectacle ou discuter des conditions de diffusion.
Au four et au moulin.
Voilà, c'est ça. Donc c'est comme si tu devenais, boulanger, carreleur, en même temps, hein, boulanger, carreleur, mécanicien, tu fais aussi la peinture et tout. Et c'est vrai que les compagnies de théâtre, on s'aperçoit que un peu les gens qui y sont, bah, ils font tout.
Absolument.
Pour moi, c'est ce modèle économique qui est très fragile, quoi, parce que les gens s'engagent dans un projet qui est pas toujours viable, qui est très très difficile à faire vivre, quoi. Et donc, tu te retrouves à faire mille et un métiers, parce qu'évidemment.
Alors qu'il y a des théâtres nationaux où tout le monde est payé.
Tu vois, par exemple, nous, on s'est intéressé. Par exemple, tu vois, nous, dans le cadre de notre travail, on s'est dit, bah tiens, on a à proximité de chez nous. Enfin, je ne suis pas tout à fait à proximité, mais nous, on est à Colombes. Il y a à Nanterre, le théâtre des Amandiers, qui est aussi une belle salle. Et le théâtre de Gennevilliers, hein, le T2G. Donc, on discute avec eux, mais quand on regarde leur, leurs obligations, en tout cas, c'est... par exemple, les centres dramatiques nationaux ont... alors, c'est pas une obligation, mais ils sont censés rayonner sur le territoire. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rayonner sur le territoire? Et c'est un peu au bon vouloir du directeur, de la direction, de se dire, bah, on peut faire un truc avec vous, on peut faire un truc sur le public, on peut délocaliser un spectacle, on peut ou pas. Parce que, a priori, si t'as trois personnes qui viennent de Colombes dans leur théâtre, eh ben, on pourrait dire, ben voilà, ils rayonnent sur leur territoire. Mais aussi, ils pourraient délocaliser une partie de leur activité. Donc voilà, c'est en fait à l'appréciation de. Et c'est vrai qu'il y a un déficit, à mon sens, il y a un déficit de rayonnement sur les endroits, sur les lieux, en tous les cas, ou les villes qui n'ont pas de centres dramatiques nationaux, quoi. Donc ça, c'est un peu...
Je crois qu'on se rapproche de 17h.
Oui, avec cette conversation intéressante.
À Élie, alors les gens qui viennent de la part de Radio Libertaire, est-ce qu'ils ont une offre particulière, une réduction particulière pour les auditeurs, c'est important. Hein.
Oui, je sais. Non, on n'a pas, ce genre de réduction. Ce dont je peux vous inviter, c'est aller directement sur le site de Billets Réduc. Sachez que voilà, vous allez payer votre place 14€. Voilà, c'est tout ce que dont nous on peut offrir. Et c'est vrai que c'est aussi, on nous demande, même nos amis et tout, nous demandent souvent, il n'y a pas une place, tu peux pas me faire une détaxe. Il faut aussi, voilà, c'est aussi une partie de nos métiers. On fait, comme on disait aussi en off, on se paye souvent peu comparé au nombre d'heures qu'on fait. Mmh. Et voilà, c'est vrai que on trouve que voilà, une place qui tourne autour de
15€. Mais déjà 14€, c'est pas mal.
Voilà,
exactement.
Le 18, ça reste honnête. Et aussi on vient aussi à la communication aussi pour ça, c'est que comparé aux autres théâtres où on peut payer 25€ sa place, on trouve que ça dépasse, voilà, ça dépasse l'entendement.
Ben, un grand merci en tout cas, merci d'être venu, Ferid, Élie.
Merci à toi.
Et comme on dit dans le métier, merde. Et merde pour l'avenir.
Salut tout le monde.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Cette petite conversation intéressante sur le théâtre vu de l'autre côté du projecteur fait que nous reportons à la semaine prochaine un texte proposé par Evelyne et Jean-Marie. On va quand même conclure avec la voix de Jean-Marie.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant par rares fleurs. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts.